Cet après-midi, ce matin, pardon, je voulais parler avec vous d'un thème qui est souvent abordé dans les prédications, mais c'est rare qu'on fasse une prédication complète sur ce thème, et je voudrais le faire. Je voudrais vous parler de la question du pardon ce matin. Je crois que cette question est essentielle. Elle est source de blocage dans de nombreuses vies. Pas seulement chez ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi parmi les chrétiens. Nous savons que la question du pardon, c'est une question qui est éminemment spirituelle. Et je pense qu'il faut un certain courage pour aborder cette question, mais je crois que le Saint-Esprit est courageux. Et que il est au milieu de nous ce matin qui va nous aider à réfléchir à cette question. J'aimerais vous rappeler que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'espérais des amen à cette déclaration, parce qu'elle n'est pas de moi, elle est de Jésus. Vous êtes d'accord? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et souvent on prononce cela quand on veut voir un miracle, un boiteux marché, etc. Mais je pense qu'on peut le prononcer pour la question du pardon. Dieu est tout-puissant. Il élève nos vies au-dessus de notre petite existence. Il est capable tout d'abord de nous donner d'avoir un autre regard sur les événements, sur les choses, sur les personnes que ce que notre intelligence humaine peut nous donner de voir. Ensuite, Dieu ne nous demande pas de pardonner sans avoir d'abord lui fait le premier pas. Et celui qui nous a pardonné premièrement, c'est lui. Et il nous a même pardonné ce qui est impardonnable. Et il le fait des centaines, des milliers de fois dans chacune de nos vies. Et puis Dieu nous a donné son esprit. Et au travers de son esprit, il nous donne la force de faire ce que, avec nos propres forces, nous ne sommes pas capables de faire. C'est les trois points que je voudrais développer avec vous ce matin. Le premier, c'est que Dieu nous donne un autre regard sur ce que nous vivons ou sur ce que nous avons vécu. J'aimerais lire avec vous dans le livre de la Genèse, au chapitre 45. Genèse chapitre 45, versets 4 à 8. J'espère que tout le monde a trouvé la Genèse dans sa Bible. Ceux qui débutent, qui commencent à venir à l'église sont contents quand on dit on va lire dans la Genèse. Joseph dit à ses frères, c'est le moment, bon, pour résumer, peut-être certains ne connaissent pas l'histoire de Joseph, donc je vais la résumer rapidement. Joseph a été le préféré dans la maison de son père, le petit dernier que Jacob avait eu avec Rachel. Et donc, il a entraîné une certaine jalousie auprès de ses frères, une haine même, qui l'ont amené à vouloir le tuer, puis après ils se sont ravisés, finalement ils l'ont vendu à des marchands d'esclaves. Donc Joseph a subi ça très jeune dans sa vie. Voilà, si on peut parler de traumatisme, je pense que celui-là, il est pas mal. Et ensuite, il se retrouve esclave chez Potiphar, et là, ça commence à aller mieux pour lui, sauf que, il va arriver un événement où il va être accusé à tort d'avoir voulu abuser de la femme de son maître, et il va se retrouver en prison. Et là, non seulement il a été vendu par ses frères, ils ont failli l'assassiner. Maintenant, il se retrouve en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Décidément, le sort s'acharne sur lui. Et dans cette prison, il va aussi expérimenter des choses avec Dieu. Puis, de cette prison, il va sortir, il va interpréter des rêves qu'a reçus Pharaon, puisqu'il est en Égypte, alors qu'il est esclave, il a été conduit en Égypte. Et dans ce pays, le Pharaon va recevoir un rêve de la part de Dieu, et personne ne peut l'expliquer. Et quelqu'un qui était avec Joseph en prison et à qui Joseph avait interprété un rêve va dire à Pharaon, mais moi je me souviens de quelqu'un qui sait interpréter les rêves. Et on va amener Joseph devant Pharaon et Joseph va interpréter le rêve de Pharaon et Pharaon va le nommer premier ministre d'Égypte. Alors, je vous l'ai fait court, hein. C'est beaucoup plus détaillé. Lisez les chapitres 37 et suivants de la Genèse et vous aurez toute l'histoire de Joseph. Et là, Joseph, eh bien, il se retrouve à une place importante et il va, donc, dans le rêve, il était dit que il y aurait 7 ans d'abondance en Égypte, 7 ans de famine. Et Joseph va conseiller à Pharaon de mettre de la nourriture en réserve pendant les 7 ans d'abondance pour pouvoir vivre pendant les 7 ans de famine. Et donc, on arrive aux 7 ans de famine et cette famine, eh bien, la famille de Joseph va la vivre aussi puisqu'ils habitent pas en Égypte, mais juste à côté. Et cette famine va gagner aussi, le lieu d'habitation de Jacob et sa famille. Et donc, ils vont apprendre qu'en Égypte, il y a de la nourriture. Et ils vont venir, ils vont se retrouver là, devant Joseph, pour demander de la nourriture. Ils vont pas le reconnaître au début, mais Joseph, lui, évidemment, il les reconnaît tout de suite. Et il va y avoir tout un tas de choses qui vont se passer. Mais à un moment donné, et on y est là, on arrive à ce moment où Joseph va finir par leur dire « Je suis Joseph, votre frère ». Essayez d'imaginer dans quel état devaient être les frères de Joseph. Hein. Ils sont devant le deuxième homme le plus puissant du monde. Il y avait Pharaon et il y avait Joseph, hein, juste après lui. Et cet homme qui est le deuxième homme le plus puissant du monde, ils ont essayé de l'assassiner et ils l'ont vendu comme esclave. Donc ils ne devaient pas être fiers de se retrouver devant Joseph. Mais Joseph va leur dire ceci. « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Je pense qu'ils ont dû s'approcher tout tremblant. Hein. Il dit, je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas, ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous, pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Amen. Je ne pense pas que Joseph ait eu cette vision des choses lorsqu'il a été vendu comme esclave, lorsqu'il a été accusé à tort, il n'était pas dans cette logique-là. Et certainement qu'il y avait une difficulté pour lui d'accepter ce qu'il vivait, d'accepter ce qu'il avait subi et d'accepter certainement de pardonner à ses frères. Mais là, Dieu donne à Joseph un autre regard sur la situation. J'aimerais que vous compreniez que dans vos situations de difficulté, situations où vous souffrez, situations où vous êtes victime d'injustice, situations où vous êtes amené à devoir pardonner, Dieu voudrait vous montrer autre chose que ce que vous voyez avec vos propres yeux. Dieu est au contrôle de nos vies. Rappelez-vous toujours de cela. Dieu est au contrôle de nos vies. Et même lorsque Joseph et entre les mains de ses frères qui veulent le tuer, Dieu est au contrôle puisque Joseph ne va pas mourir. Lorsqu'il est vendu comme esclave, Dieu est au contrôle parce qu'il le conduit en Égypte. Et c'est là le plan de Dieu, que Joseph aille en Égypte. Et lorsqu'il conduit l'épouse de Potiphar à l'amener en prison, Dieu est au contrôle encore. Comment ça? Dieu est au contrôle alors qu'on me met en prison alors que j'ai rien fait? Mais vous savez, les plans de Dieu, ils nous dépassent complètement. Et je crois qu'on doit être amené à se rappeler que Dieu est au contrôle. Joseph, il est ce qu'on appelle un type de Jésus-Christ. Et quand vous voyez la vie de Jésus, quand vous voyez la vie de Joseph, on peut faire plein de parallèles. Jésus a été trahi par ses propres frères, les Juifs, qui ont demandé qu'il soit crucifié à Ponce Pilate. Jésus a connu une accusation à tort. Il est crucifié alors qu'il n'a rien fait. Et lui, ce n'est pas seulement la prison qu'il va vivre. C'est la mort. Pourquoi je fais ce parallèle entre Joseph et Jésus ? Parce que la clé du pardon, c'est la croix. Elle nous montre que Dieu est au contrôle. La croix nous montre que Dieu est au contrôle. Savez-vous que les disciples ont eu besoin d'un temps aussi pour avoir la vision de Dieu sur les événements ? Ils croyaient que Dieu avait perdu le contrôle. Vous vous rappelez ce que disent les disciples d'Emmaüs, hein ? Les disciples sur le chemin d'Emmaüs à Jésus ? Ils croient, ils se disent, mince, on croyait que Jésus c'était le prophète. Et tout est tombé par terre. Ils ont cru que c'était fini, que la situation avait échappé à Dieu. Mais nous savons qu'il n'en est rien, au contraire. Alors que peut-être l'enfer se réjouissait en voyant Jésus mourir sur la croix, tout l'enfer a déchanté quand Jésus est ressuscité. Et qu'il a été proclamé dans les lieux célestes que tous les hommes auraient le pardon en lui. Amen. C'est pour ça qu'il est dit que les dominations étaient livrées en spectacle sur la croix. La souffrance terrible de la croix est transformée par Dieu en source puissante de salut pour les hommes. La souffrance que tu vis, l'épreuve que tu vis, le traumatisme que tu vis ou que tu as vécu au travers de la croix peut devenir une source de bénédiction pour ta vie et pour ceux qui t'entourent. Amen. Un chrétien, ce n'est jamais une victime. C'est peut-être un peu fort ce que je dis. Un chrétien n'est jamais une victime parce que sa vie est au contrôle de Dieu. Amen. Et à chaque fois que nous nous mettons dans une position de victime, nous nous mettons en danger, mes frères et sœurs. On s'enferme dans un aveuglement. À partir du moment où quelqu'un a décrété qu'il était une victime, vous pouvez essayer d'aller lui parler, de le raisonner, c'est plus la peine. Et il va vous regarder en se disant, il ne me comprend pas. Et c'est un enfermement que le diable met sur les gens en les mettant en position de victime. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes victorieux dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est un problème la victimisation aujourd'hui. Hein. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est parce que vous avez vu. Enfin, je vois des plus anciens au milieu de nous. Hein, quand il y avait une catastrophe naturelle, on avait la famille, on se soudait, et on se relevait. Hein. Aujourd'hui, c'est des psychologues qui arrivent, des cellules de gens, de spécialistes qui arrivent, qui vous prennent. Et alors, plus on vous parle, plus on a l'impression que ce que vous avez vécu, c'est vraiment terrible, terrible, terrible. Et donc, du coup, vous êtes encore plus traumatisé qu'avant. Alors, je nie pas l'importance de l'accompagnement des gens qui souffrent. Mais je pense que nous avons en Christ ce dont nous avons besoin. Et Dieu nous relève de nos traumatismes, de nos blessures. La Bible dit, il est venu pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer la délivrance aux captifs. Amen. Joseph est un homme remarquable en ce que, par l'Esprit de Dieu qui était en lui, je vous rappelle que c'est ce qu'a dit Pharaon lui-même, hein, il a dit, n'y a-t-il pas l'Esprit de Dieu sur cet homme ? Incroyable, hein, un païen qui dit ça. Mais parce que Joseph avait l'Esprit de Dieu en lui, il n'a pas développé de rancune. J'en veux pour preuve que lorsque sa famille est arrivée en Égypte, Pharaon leur a donné le meilleur pays qu'il avait, le meilleur endroit, le pays de Goshen. Et je pense, alors ça c'est l'interprétation Luc Goyot, hein, mais je pense que si Joseph avait parlé mal de sa famille à Pharaon, je pense pas que Pharaon leur aurait donné la meilleure partie. Et Joseph a été quelqu'un qui n'a pas dit de mauvaises paroles sur sa famille, malgré ce qu'elle lui avait fait. Et mes frères et sœurs, ça doit être une leçon pour nous. Peut-être quelqu'un t'a fait souffrir, peut-être quelqu'un te fait souffrir, mais garde ta bouche et ne parle pas en mal de tes ennemis. Tu te protégeras toi-même. La deuxième chose que nous pouvons voir, la première, c'est que Dieu nous met au-delà de ce que nos yeux voient, pour voir que tout est à son contrôle et que les circonstances vont tourner pour donner faveur au salut et à Dieu. La deuxième chose, c'est que Dieu, de réaliser, et j'espère que beaucoup l'ont déjà réalisé, Dieu nous a pardonné nous-mêmes de quelque chose d'impardonnable, c'est-à-dire le péché. Le péché, c'est se montrer en opposition à Dieu, au plan de Dieu. C'est lui désobéir, c'est s'opposer à lui. Ce n'est pas pardonnable. Il est notre Créateur, il nous aime. Il a tout fait d'une manière merveilleuse pour nous. Quand on lit la Genèse, justement, il est dit à la fin de la création, tout cela était bon, était même très bon. Et l'homme a tout gâché. C'est impardonnable de faire cela. Mais pourtant, Dieu a voulu nous pardonner. Amen. Nous lisons dans Matthieu chapitre 18, une parabole que vous connaissez certainement. C'est celle du serviteur impitoyable. Mais je voudrais la lire avec vous ce matin pour nous rappeler ces choses essentielles. On lit d'abord, juste avant la parabole, une petite discussion entre Pierre et Jésus. Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ça sera jusqu'à 7 fois ?» C'est pas mal déjà. Hein? Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. » 7 fois. Vous savez compter? Ah oui, c'est pas compté. Hein. Ah, c'est mieux, oui. On arrondit à 500, allez. 500. Et c'est par jour. Hein. Donc vous voyez un peu le travail. C'est pourquoi, Jésus dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui amena un serviteur qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de sa dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te paierai !» Mais l'autre ne voulut pas lui remettre la dette et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère un petit peu. » Ah, mais j'essaie de voir si vous suivez quand même. Mais il y en a 3 qui suivent. Si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur. Ah, vous savez, vous avez des gens, ils disent, ok, je pardonne. Ah, permettez-moi de pas y croire, hein. De tout son cœur. Cette parabole, on mesure pas l'importance qu'elle a. Je pense qu'il était important que Jésus donne cette parabole à Pierre après lui avoir dit « Tu dois pardonner 490 fois par jour à celui qui te fait du mal. » Et là, moi je me mets à la place de Pierre, je fais « Seigneur, tu me demandes quoi là ?» Tu me donnes quelque chose que je ne peux pas faire. Mais Jésus va lui montrer pourquoi il doit pouvoir le faire. Alors pour Pierre, c'est un peu compliqué, puisque Jésus n'est pas encore mort sur la croix. Mais pour nous, ça devrait être simple de comprendre ces choses. L'argument, c'est encore la croix, comme tout à l'heure, nous avons parlé de la croix, nous reparlons encore de la croix. Quand il s'agit du pardon, à la croix, Jésus nous pardonne d'une dette qui était impossible à rembourser. Est-ce que quelqu'un a l'argent pour payer l'équivalent de la vie du Fils de Dieu ici? Vous connaissez quelqu'un sur terre qui l'a? Non. Même le plus riche de toute la terre n'a pas l'argent pour dire, voilà, je mets sur la table ce qui peut payer la valeur de la vie du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Jésus nous rembourse une dette, paye pour nous une dette, pardon, que nous ne pouvions pas rembourser. Il est parlé ici de 10 000 talents. Est-ce que vous savez ce que ça représente, 10 000 talents? Si vous dites non, vous êtes comme moi avant que je me penche sur la question. Bien plus que ça. Un talent, c'est égal à 6 000 deniers. Et on sait qu'un denier, c'était une journée de salaire. On a une parabole qui nous l'indique. Donc si on fait les calculs, je ne vais pas vous les énumérer. Si vous voulez le détail, je vous le ferai passer. Hein, mais si on fait les calculs, en comptant qu'aujourd'hui on a 5 semaines de congés payés, donc on travaille 235 jours par an, en comptant des semaines de 5 jours, parce qu'on ne travaille pas le week-end, 47 fois 5, hein, ça fait 235 jours par an. Donc si on fait le calcul, il aurait fallu que cet homme travaille 255 319 ans pour rembourser sa dette. Vous voyez le genre? Donc sa dette, elle n'était pas remboursable, tout simplement. C'était pas possible de la rembourser. Et ce que Jésus veut nous montrer, c'est que le pardon qui nous a acquis à la croix, on ne peut rien faire pour l'obtenir. Et c'est important, hein, c'est important parce qu'aujourd'hui on voit tellement de gens chrétiens qui essayent de gagner la faveur de Dieu par leurs actes, par leur manière de faire, etc. Mais on peut pas. Tout ça c'est par grâce, c'est une pure grâce, on ne mérite rien. Et on n'a rien qu'on peut donner à Jésus en retour de cet amour qu'il a manifesté. Et la suite de la parabole nous montre une chose toute simple. C'est que cet homme qui devait quelques journées de salaire, allez, même pas, moi j'ai calculé, c'est moins d'une année de travail. Il lui devait moins d'une année de travail. Et là, il n'a pas voulu lui remettre la dette, alors que lui, on lui avait remis une dette qui n'était pas remboursable. Et mes frères et sœurs, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Chaque fois que nous refusons de pardonner, nous oublions que Jésus nous a pardonné. Pour quelque chose de bien plus dur que ce que on nous a fait, quoi qu'on nous ait fait. Quoi qu'on nous ait fait, c'est beaucoup moins dur que ce que nous, on a fait à Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Même celui ou celle parmi nous qui a le plus souffert, elle ne peut pas dire qu'elle a plus souffert que Dieu vis-à-vis de la manière dont les hommes l'ont traité. Et donc, à chaque fois que nous refusons de pardonner, eh bien, nous manifestons d'une manière claire que nous n'avons pas compris réellement ce que Jésus a fait à la croix. On peut avoir compris intellectuellement, hein. Oui, j'ai compris, Jésus est mort pour mes péchés. Il y a plein de gens qui pensent ça. Mais s'ils ne pardonnent pas, c'est qu'ils n'ont pas compris vraiment spirituellement ce qui s'est passé à la croix. Si je comprends ce qui s'est passé à la croix, ça doit être facile pour moi de pardonner. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Si j'ai vraiment compris ce que Jésus a fait, c'est facile pour moi de pardonner quelqu'un. Amen. Dernier point, c'est Dieu qui nous donne la force de pardonner. J'aimerais vous donner l'exemple d'un homme qui s'appelle Étienne, et dont il nous est parlé dans Actes chapitre 6. On va lire d'abord au verset 5, la première fois dont il nous est parlé d'Étienne, c'est ce moment où on cherchait des hommes pour distribuer hein, la nourriture aux tables, et ils vont chercher des hommes. Et donc, Actes chapitre 6, verset 5, il nous est dit, « Cette proposition plut à toute l'assemblée, ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. » Puis si on va un peu plus loin, toujours dans Actes 6, on lit les versets 8 à 10. « Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelés synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. » Au verset 15, il est dit ceci, « Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. » Et puis on va au chapitre 7 et on lit la fin du chapitre 7. Ce moment où Étienne est condamné à la lapidation. Donc comme traumatisme, c'est pas mal aussi. Et on va voir l'attitude de cet homme dans ces moments. Étienne, rempli du... au verset 55, hein, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent, les hommes du Sanhédrin, poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. Amen. Qu'est-ce qui fait la force d'Étienne ? Cet homme est rempli du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, souvent, nous sommes démunis devant les circonstances de la vie parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, nous réagirons avec notre chair. Et notre chair n'est pas capable de pardonner certaines choses. Il y a des choses qu'on peut pardonner, bon... Il m'a dit un mot de travers l'autre jour, bon allez, c'est bon, c'est pas grave, je t'en veux pas. Mais quand c'est des choses dures, trahison, violence, inceste, etc., est-ce que la chair est capable de pardonner? La réponse est non. La réponse est non. La chair n'est pas capable. Mais si je suis rempli de l'esprit, eh bien je suis capable de pardonner même ceux qui me mettent à mort. C'est ce que fait Étienne. Ne leur impute pas ce péché. Ça vous rappelle rien? Qu'est-ce que dit Jésus sur la croix? Jésus accorde le pardon même à ceux qui le crucifient. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas en Jésus et n'est pas en Étienne, peuvent-ils faire cela? Non. Ils ne le peuvent pas. Mes frères et sœurs, la clé, c'est que nous veillons à être remplis de l'Esprit du Seigneur. Parce que l'Esprit du Seigneur nous donnera de pouvoir faire, ce que je disais en introduction, ce que nous ne sommes pas capables de faire par nous-mêmes. Et je veux attester ici que Dieu est capable de nous donner de faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Et pour avoir accompagné des gens dans de grandes souffrances et de grandes difficultés, ayant subi des choses terribles, et avoir vu des personnes capables de pardonner à ceux qui leur ont fait du mal, par la force que Jésus-Christ a mis en eux, eh bien j'ai pu attester ici que c'est la vérité. Et que c'est pas seulement quelque chose qui peut concerner Étienne, mais qui peut te concerner à toi aussi, mon frère, ma sœur. Pour que tu en finisses ce matin avec ce problème de rancune et d'amertume que tu as gardé dans ton cœur. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et nous savons que la première manifestation de l'Esprit de Dieu en nous, c'est l'amour. Et l'amour de Dieu en nous, c'est un amour qui pardonne. L'amour humain pardonne d'une manière sélective. On va pardonner à certaines personnes, mais à d'autres, on ne pardonnera pas. On a tous entendu la fameuse phrase « Je ne pardonnerai jamais ». Vous l'avez entendu. J'espère que vous n'avez fait que l'entendre et que vous ne l'avez pas dite, cette phrase, si vous êtes chrétien. Ne dites jamais « Je ne pardonnerai jamais ». Vous mettez un lien sur votre vie avec une telle déclaration. Dites « Ça, Seigneur, je ne peux pas le pardonner ». Soyons honnêtes avec le Seigneur. Faisons pas les spirituels. Ah, le Seigneur, j'ai entendu la prédication ce matin. Ah, il faut que je pardonne, je vais pardonner. Alors on y va avec ses propres forces, mais vous allez vous casser la figure. Dites, Seigneur, reconnaissez ça, Seigneur, je peux pas le pardonner. C'est au-dessus de mes forces. Mais Seigneur, tu as demandé à ce que je pardonne, donc maintenant je demande à ce que ton esprit me remplisse et qu'il me donne la capacité de pardonner. Amen. Et Dieu le fait. Dieu est fidèle pour le faire. Et quand je disais tout à l'heure, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, ça concerne cela. Ce moment où on est là devant une situation où avec nos propres forces, on ne peut pas faire. Même si on sait que c'est ce que Dieu veut, on ne peut pas. Soyons honnêtes. Il y a des choses que Dieu veut qu'on fasse et on est obligé de dire, ben ça Seigneur, moi je peux pas. Mais puisque tu dis qu'il faut que je le fasse, Seigneur, alors tu vas me donner la capacité de le faire. Amen. Et notre Dieu est puissant et fidèle pour le faire, je peux vous l'assurer. Et quand le pardon est accordé et que cela vient de l'Esprit de Dieu et que c'est un pardon, comme on l'a dit tout à l'heure, de tout son cœur, c'est une libération. Une libération, pas pour celui à qui vous accordez le pardon, aussi. Mais la libération, c'est surtout pour vous. C'est vous qui êtes libéré. C'est vous qui êtes libéré. Vous savez, les gens qui nous font du mal, ils peuvent nous faire un mal une deuxième fois. La première fois, bon, ceux qui nous ont fait, nous a fait mal. Et là, c'est eux qui sont responsables, c'est eux qui nous ont fait du mal. Mais quand on refuse de pardonner, ils nous font une deuxième fois du mal. Sauf que cette deuxième fois, c'est plus eux les responsables. C'est nous. C'est moi qui deviens responsable de ma propre souffrance. Alors que lorsque je pardonne, je peux libérer mon âme, mon esprit. Amen. Et tous ces freins, toutes ces choses qui sont là comme des obstacles dans ma vie vont tomber. Je me souviens de lorsque j'étais plus jeune, j'étais pas encore pasteur, et on avait organisé un camp de jeunes à la Gautrie, pour ceux qui ont connu cet endroit. Et pendant le temps de louange, le Seigneur a mis sur mon cœur une prophétie où j'ai dit tout fort, tu demandes à être baptisé du Saint-Esprit et tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit et tu demandes à Dieu pourquoi. Et le Seigneur te dit, c'est parce que tu n'as pas pardonné à ton Père. C'est tout. À la fin de la réunion, une jeune femme vient me voir et me dit ce que vous avez dit tout à l'heure, ça me concerne à moi. Je dis, ben gloire à Dieu. Quand on donne un don spirituel, forcément, il y a quelqu'un qui est concerné. Elle me raconte sa vie. En fait, cette jeune femme avait été violée par son père. Là, on est dans le cas typique où moi, je vais lui dire, il faut que vous pardonniez à votre père. Qui je suis pour lui dire ça? Vous croyez que c'est possible de pardonner ça? C'est impardonnable, on est bien d'accord, c'est impardonnable. Mais pourtant, dans cette prophétie, Dieu lui dit, il faut que tu pardonnes. Et là, je lui ai dit ce que je viens de vous dire, tu n'es pas capable, mais on va prier pour que l'Esprit de Dieu te rende capable. Et on a prié ensemble, elle est repartie, elle n'était pas de mon église, Trois semaines après, je reçois un coup de téléphone. Et me dit, Luc, gloire à Dieu, ça y est, j'ai pardonné à mon papa. Je viens de l'appeler et je lui ai même demandé pardon pour la rancune et la haine que j'ai eue envers lui. Vous vous rendez compte? C'est le monde à l'envers. Hein, c'est la victime qui demande pardon à son agresseur parce qu'elle lui en a voulu. Mais ça, c'est la puissance de l'amour de Dieu. Et je lui ai dit, ben, c'est merveilleux ce que tu me dis, attends-toi maintenant à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Une semaine après, le téléphone sonne à nouveau, elle était baptisée du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La puissance du pardon. La puissance du pardon. Et j'aimerais vous inviter vraiment à venir à genoux devant Dieu. Si vous êtes dans des situations où vous ne pouvez pas pardonner, personne ne vous juge ici. Parce que comme je viens de le dire, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Personne ne vous juge, mais Dieu veut vous encourager ce matin. Parce que lui vous rend capable de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Regardons simplement à la croix, je termine avec cela. Étienne, alors qu'il est en train de recevoir les pierres, il lève les yeux vers le ciel. Il n'est pas le regard sur sa pauvre situation. « Ah, oh, on est en train de me lapider, mais j'ai rien fait, moi. Pourquoi, moi ? Seigneur, tu es où ? Ah, ça sert à quoi d'être chrétien ? Oh, regarde tout ce qui m'arrive !» Nous, on ne raisonne pas comme ça, hein, jamais. Étienne, il regarde vers Jésus. Il regarde vers Jésus. Et il suit l'exemple de Jésus. Et certainement qu'il voit Jésus sur la croix, qui est mort pour ses péchés, mais qui est mort aussi pour les péchés de ceux qui sont en train de lui jeter des pierres. Et c'est pour ça qu'il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Amen. Quand on regarde à la croix, quand on regarde à ce que Jésus a fait pour nous, déjà, comment ne pas l'accepter comme notre sauveur? Si quelqu'un ne l'a pas fait encore, je l'invite à le faire aujourd'hui, en réalisant ce pardon qui est accordé. Comment refuser à Jésus-Christ ce pardon qu'il nous accorde? Suivez-le. Donnez-lui votre vie ce matin. Regardez à Jésus et vous deviendrez capable de pardonner. Étienne a certainement entendu, et ses paroles ont dû résonner à son cœur, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et le pardon accordé par Étienne a été fructueux. Vous n'avez pas remarqué qui c'est qui était présent? Saul de Tarse, qui devient Paul, et qui reçoit le pardon de ses péchés quelque temps plus tard. Amen. Ce que l'on peut faire dans les lieux célestes, quand on pardonne quelqu'un, quand on délie des situations, on ne mesure pas les conséquences que ça peut avoir. Mes frères et sœurs, le pardon, c'est une source de salut. Et ce jour-là, Étienne, en pardonnant, a été une source de salut. Alors, je ne peux pas m'avancer en disant que c'est un lien direct, mais je crois. Je crois que là, Étienne a libéré des choses pour ceux qui le persécutaient. Et son principal persécuteur va se convertir quelque temps plus tard et devenir un des plus grands apôtres prédicateurs que la terre ait connu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous prions ensemble. Seigneur, je te rends gloire et grâce. Je te bénis, Seigneur, parce que ton amour est tellement puissant. Tu m'as pardonné, Seigneur, et tu me pardonnes, oui. Si tu as dit à Pierre de pardonner 500 fois par jour, combien je peux témoigner que tu as cette patience envers moi? Combien de fois tu m'as pardonné? Combien de fois? Je ne peux le compter, Seigneur. Je ne peux le compter. Et je te bénis parce que si je suis là et que je peux prêcher ta parole, c'est un effet de ta grâce et c'est par le pardon que tu m'as accordé à la croix du calvaire. Alors Seigneur, comment pourrais-je moi être freiné à pardonner mon prochain? Seigneur, je ferai injure à ce pardon que tu m'as accordé. Seigneur, merci pour la liberté, la capacité que tu nous donnes de pardonner à nous qui avons reçu ton pardon. Je te prie de libérer dans ce lieu maintenant toute situation de non-pardon. Je te prie de libérer celui ou celle qui a prononcé cette phrase « Je ne pardonnerai jamais ». Libère-le, libère-la, Seigneur, au nom de Jésus. Donne-lui de reconnaître qu'elle ne peut pas, mais que toi, tu peux. Seigneur, merci. Oui, tu dis, ta parole dit qu'on doit garder aucune racine d'amertume. Et je prie au nom de Jésus que l'église de Moissac, les personnes qui sont là dans ce lieu, soient libérées de tout cela au nom de Jésus et pour ta gloire, afin que ton œuvre avance, premièrement dans chacune des vies, mais aussi dans l'église, pour la gloire de ton nom. Amen.